France Inter.
Aujourd'hui, état d'urgence sur les glaciers alpins, raconté par
Christian Vincent, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
À 1h30 du matin, un sifflement strident et un souffle violent tirèrent brutalement les occupants de l'hôtel des Bains de leur sommeil. Certains dormaient depuis plusieurs heures, d'autres venaient de sombrer entre les bras de Morphée. Le bruit résonna entre les rochers du vallon avec une violence telle que les murs tremblèrent, s'ensuivirent des coups assourdissants, étranges et terribles. Terrifiés par ces espèces de roulements de tonnerre accompagnés de trépidations du sol, les individus craignaient de regarder dehors. Était-ce un orage de grêle, un tremblement de terre, la fin du monde, l'apocalypse décrite par l'apôtre Jean. En tenue de nuit, les pieds nus, certains s'aventurèrent sur les terrasses, sur les balcons. Personne ne put déceler ce qui arrivait à la vitesse d'un cheval au galop. Un gigantesque raz-de-marée venu des hauteurs des montagnes s'engouffra dans le vallon des Bains par le couloir ouvert par la cascade. Sans même avoir le temps de comprendre que leur vie était menacée, les occupants des thermes virent descendre sur eux un mascaret meurtrier. L'eau, charriant comme fétus de paille, rochers, boue, arbres, débris de toutes sortes, déferla sur les constructions avec une violence inouïe. Prisonniers des fragments de matériaux, écrasés sous des masses de pierre, engloutis sous la bourbe gluante, happés par la vague dévastatrice, certains des hôtes périrent en quelques secondes. Certaines parties des bâtiments et des dépendances s'écroulèrent comme des châteaux de cartes sous la force des eaux. Les logis épargnés par ce tsunami alpestre se virent privés de leur toiture, de leur galerie, arrachés par la puissance du souffle. La trombe boueuse qui venait de s'abattre sur l'établissement, ne trouvant plus aucun obstacle à sa course, se répandit sur la totalité du vallon. Elle se déversa ensuite sur la chaussée, balaya une partie du hameau du Fayet, puis les boues s'étalèrent dans la plaine de Larve et l'eau se jeta dans le lit de cette dernière avec fracas. Le bruit assourdissant de ce désastre s'était répercuté si loin que les fermiers du coteau d'en face crurent que la montagne s'éboulait. Bonjour Christian Vincent.
Bonjour.
Le texte que je viens de lire est extrait du roman historique « Une vague dans la montagne » de Catherine Gerfaut sur la catastrophe de Tête-Rousse en 1892. On va y revenir ensemble, vous qui publiez ce livre « SOS Glacier », c'est aux éditions Paulsen. En moins d'un an, Christian Vincent, entre juin 2024 et mai 2025, les villages de la Bérarde en France, puis celui de Blatten en Suisse, ont montré que les villages alpins pouvaient être dévastés par des mécanismes glaciaire et qu'une catastrophe majeure peut se produire à tout moment. Comment vous, est-ce que vous avez vécu justement ces deux éléments aussi rapprochés ?
Bien, en fait, la Bérarde comme Blatten, ce sont des catastrophes, heureusement, qui n'ont pas fait de victimes ou peu de victimes. Il y a eu quand même une personne disparue à Blatten. À la Bérarde, on a eu beaucoup de chance, mais ça nous a rappelé que ces risques d'origine glaciaire sont bien présents et qui peuvent nous prendre par surprise. Alors, celui de la Bérarde, la catastrophe de la Bérarde était totalement imprévisible. Hein. Ouais. Personne ne l'a vu venir. Et après coup, on peut, évidemment, on a cherché à comprendre. On a compris que, en fait, c'était la combinaison de trois facteurs. Un facteur météorologique qui était lié à des pluies très intenses sur la Bérarde entre le 20 et 21 juin 2024. Et puis, il y avait aussi la fonte du manteau neigeux qui était très intense aussi parce qu'il faisait chaud. L'isotherme 0 degré était au-dessus de 3500 mètres d'altitude, donc il faisait chaud. Donc, une fonte intense qui a apporté beaucoup d'eau. Et malheureusement, un troisième facteur que l'on a compris pas tout de suite après la catastrophe, il a fallu quand même quelques jours, voire quelques semaines, pour que l'on identifie la vidange brutale d'un lac supraglaciaire. Ça veut dire un lac glaciaire qui s'est formé à la surface du glacier de Bonne-Pierre, juste au-dessus de la Bérarde. Et ces trois facteurs, cette combinaison de trois facteurs, a malheureusement engendré la catastrophe de la Bérarde, avec 200 000 mètres cubes de roches qui ont littéralement dévalé sur la Bérarde.
C'est monstrueux hein, comme événement, évidemment. Quand vous nous dites « on n'a rien vu venir », en tant que scientifique, ça doit faire froid dans le dos quand même, non ?
Oui, et ça nous rappelle amèrement que on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, et c'est souvent un discours que je défends par rapport au pouvoir public, et pour dire que bon, on a beau mettre en œuvre toutes les stratégies possible pour prévenir de ces menaces glaciaires, je pense qu'on ne sera jamais totalement à l'abri de mauvaises surprises. D'ailleurs, ces dernières années, il y a eu des gros progrès hein, sur la stratégie de prévention des risques d'origine glaciaire. Notamment, il y a un programme qu'on appelle le programme PAPROG, programme d'action de prévention des risques d'origine glaciaire, qui a été mis en place par le ministère de l'Environnement, donc il y a des financements. C'est assez récent, c'est sur les 5 dernières années. Mais est-ce que ça va suffire ? Ça, tout est...
Ouais. L'humain est petit hein, par rapport quand même à ce genre de manifestation de la montagne. On entendait donc ce texte de la catastrophe de Tétrousse en 1892, 175 victimes. Est-ce que cet événement a fait entrer les glaciers au cœur des politiques publiques justement à ce moment-là ?
Oui, c'est un des événements qui a montré qu'il fallait étudier les glaciers, et notamment à cause des risques glaciaires. Alors déjà, au début du XXe siècle, les eaux et forêts commençaient à étudier les glaciers de près, mais c'était pour des questions hydrologiques, pour savoir quelle était la contribution des glaciers au débit des rivières. Vous savez, c'était l'époque de la houille blanche, et on s'intéressait aux glaciers surtout pour l'eau. Par ailleurs, on savait quand même que les glaciers pouvaient poser des problèmes. Les glaciers ont posé des problèmes même quand ils avançaient. Pendant le petit âge de glace, c'est-à-dire une période un peu plus froide qu'à l'heure actuelle, entre le XIVe siècle et 1850, les glaciers avançaient dans les vallées, ils venaient empiéter les champs des agriculteurs, donc ça posait des problèmes, parfois démolir même des habitations. Et puis, parfois, ils créaient des véritables bouchons de glace dans les vallées. Et à l'amont, ça faisait une accumulation de l'eau, donc des lacs glaciaires, qui étaient retenus par un barrage de glace très instable. Et au bout d'un moment, ça faisait une vidange brutale, une catastrophe. Donc ça s'est produit, par exemple, en 1818, à Martigny, avec des dizaines de morts. Donc on savait déjà que les glaciers pouvaient représenter des dangers. Mais la vidange brutale d'une poche d'eau comme celle de Saint-Gervais, évidemment, elle était totalement inattendue.
Donc Tétrousse, hein, 1892, là encore, évidemment, c'est un traumatisme terrible pour les populations avec le nombre de victimes. Et puis il y a une figure, celle de Joseph Valot. Qui est cet homme exactement à l'époque ?
Alors Joseph Valot, c'était un scientifique donc, qui est venu à Chamonix à la fin du 19e siècle. C'était un scientifique autodidacte. Il avait une certaine richesse familiale et donc il était passionné de botanique. Et il a été très vite passionné par la montagne, la neige, les glaciers, les hautes atmosphères, et il s'est mis à étudier les glaciers.
Donc, c'est ça, il va mettre en place des observations systématiques dès 1891, hein, c'est ce que vous racontez ?
C'est ça, c'est un des premiers qui mesure les fluctuations de front, par exemple, des glaciers, mais pas seulement les fluctuations de front. Il mesure, par exemple, la topographie des glaciers, c'est-à-dire qu'il fait des cartes, tout simplement.
Il va cartographier le Mont Blanc et toute la région. Hein.
Voilà, avec son cousin, il cartographie le Mont Blanc avec une précision incroyable, au 20 millième. Et ça nous donne des cartes du massif du Mont-Blanc dès le début du XXe siècle. Donc ces cartes, elles sont réalisées entre 1905 et 1910. Et ça nous permet d'avoir un état des lieux, des glaciers à ce moment-là. Et ça, je m'en suis beaucoup servi pour regarder les variations d'épaisseur entre cette époque-là et aujourd'hui.
Donc ce sont des cartes qui servent encore aujourd'hui de référence ?
Ce sont des cartes qui servent encore aujourd'hui, qui sont utilisées par les glaciologues, ouais. Oui.
Quand on dit cartographier le massif du Mont Blanc, voire les Alpes françaises par exemple, pour précisément essayer de comprendre dans quel état sont les glaciers et prévenir un certain nombre d'événements, est-ce qu'on a vraiment une cartographie d'absolument toutes les montagnes des Alpes, comment ça se passe en fait? On connaît absolument toute la morphologie précisément de ces montagnes?
Alors aujourd'hui, oui, parce qu'on a des cartographies très précises, donc qui ont été faites à partir des images aériennes, donc par des techniques photogrammétriques. Et puis aujourd'hui, on utilise énormément les images satellitaires qui ont une précision quasiment décimétrique.
Oui.
Donc on connaît parfaitement la topographie, le lieu des glaciers, et ça nous permet de mesurer les variations d'épaisseur avec beaucoup de précision et surtout à une très grande échelle d'espace.
On va écouter ensemble, Christian Vincent, une vidéo d'août 2012 sur la chaîne Hydrocarst, et on va écouter une vidéo qui concerne le lac de Rochemelon.
On est quand même passé à quelques heures d'un débordement incontrôlé l'an dernier. Ça a été du bricolage même jusqu'à ce qu'on puisse installer les tuyaux, puisqu'on a monté effectivement des sacs de sable pour retarder ce débordement incontrôlé.
Si à l'automne 2004, le débordement du lac est évité de justesse, la crainte des scientifiques porte sur un deuxième risque, celui de voir le glacier se soulever et rompre devant l'importance de la masse d'eau en présence.
Peut-être qu'en bas, il y avait, en même temps que les habitations, si les mesures n'étaient pas prises à temps, des risques pour la vie humaine, quoi.
Devant les risques que présente la situation, la décision est prise de traiter le problème de manière définitive et de faire disparaître le lac.
Vider le lac, c'est exactement ce qui s'est passé, Christian Vincent, puisque vous étiez sur place, je crois, au moment de la décision.
Oui, j'étais même à l'origine de l'alerte qui a été donnée aux autorités publiques. En fait, ce lac, le lac de Rochemelon, il était situé, puisqu'il n'existe plus aujourd'hui, il était situé sur le glacier éponyme, du même nom, à la frontière franco-italienne, donc dans le massif de la Vanoise. Donc c'était un lac en bordure de glacier que personne, enfin peu de gens avaient reconnu et identifié. Les randonneurs, les alpinistes passaient à côté, mais sans voir l'évolution de ce lac. Il y avait eu quand même un programme sur ce lac-là qui a été abandonné en 2003. Et avec un de mes collègues, j'avais connaissance quand même de ce lac, et avec un de mes collègues, en août 2004, je lui ai dit qu'il faut qu'on aille faire une reconnaissance de ce lac. Et le 31 août 2004, on est monté sur ce lac, donc c'est des dates que l'on retient, parce que c'est des temps très forts. On est monté sur ce glacier, on a identifié le lac, on a fait une bathymétrie, c'est-à-dire qu'on a mesuré le volume du lac. Il faisait 650 000 m3, un volume énorme, hein, deux fois la tour Montparnasse à peu près. Et ce lac était en plus, non seulement il avait un volume énorme, mais en plus il était près de déborder, c'est-à-dire qu'il était à 80 cm de dénivelé par rapport à la surface du glacier. Donc il restait 80 cm et on savait que le glacier diminuait. Donc ça, on était le 31 août. Un mois après, il restait plus que 20 cm. Donc il y a eu une alerte donnée au pouvoir public, à la mairie, au préfet, avec des situations de crise, des réunions de crise et des travaux d'urgence qui ont été menés sur ce lac pour le vidanger artificiellement.
C'est ça. Donc le danger était trop grand?
Ah oui, le danger était très intense, si on peut dire, parce que en dessous, il y a la vallée du Ribon et la vallée de l'Arc, où il y a des villages, Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard, Termignon, et donc une partie des habitations était menacée si le lac se vidangeait brutalement.
Ouais. Et ça, vider un lac, ça se fait facilement ou pas?
Non, ça ne se fait pas facilement, surtout que c'est en altitude. Là, on est à 3200 mètres d'altitude, donc il faut monter beaucoup d'instrumentation par hélicoptère, et ça a été fait à la fois par siphonnage, des siphons, et puis en creusant une galerie, un chenal, dans la glace pour évacuer l'eau du lac. Donc ça se fait en plusieurs fois, il faut être très prudent, parce que ça peut être aussi très dangereux.
Ouais. Drôle d'entreprise, hein.
Donc une entreprise très importante qui a été menée donc à l'automne 2004, mais on était proche de l'hiver.
Ouais.
Donc on ne pouvait pas faire la vidange artificielle du lac complètement, et ça a été repris en 2005, en août 2005, et le lac a été vidangé totalement. Alors depuis, on n'a plus de lac, et le glacier n'a pas complètement disparu, mais il a beaucoup diminué.
Christian Vincent, vous êtes notre invité dans La Terre au Carré cet après-midi. Vous publiez SOS Glacier chez Guérin, aux éditions Paulsen. Ça s'appelle « Comprendre et prévenir les menaces ». On en parle encore avec vous dans un instant.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Nous pensons que actuellement et disons à long terme, l'homme est en train de modifier le climat de la Terre.
En 150 ans, la température n'a progressé que d'un degré. Mais cela suffit pour que les eaux montent de 12 cm. Pour le siècle à venir, on prévoit un réchauffement d'un degré 5. La mer s'élèvera donc encore de 20 cm. Lundi dernier, on nous a affirmé qu'il était possible de lutter politiquement. Mais entre politique et climat, le rapport n'est pas égal.
C'est pas réaliste. Vous voulez revenir à l'époque des cavernes, vous éclairez à la bougie, puis vous chauffez au fuel, ne surtout pas circuler ni en avion, ni en voiture, ni en train. Pas. Donc il faut s'y faire.
Jean-Jacques Corps, maître de conférence, et juste avant, on entendait le glaciologue Claude Lorius, qui a été votre directeur d'ailleurs, Christian Vincent.
C'est ça.
C'était en 1988 sur Antenne 2 dans l'assiette anglaise. L'échange là, il est assez intéressant quand même, parce qu'on voit bien que la parole du scientifique irrite quand même aussi un petit peu d'autres personnes qui ne veulent pas croire précisément à ce qu'on raconte sur le réchauffement climatique et les conséquences que ça peut avoir sur la planète.
Oui, et je crains que ça ne soit pas fini.
Oui, on a toujours pas tellement changé quand même. C'est-à-dire que les alertes souvent sont peu entendues.
Oui, au niveau du réchauffement climatique, oui, les alertes sont pas toujours entendues, c'est clair. Bon, malgré ça, le réchauffement climatique s'accentue. Et à travers les glaciers, on le voit très bien, parce que les glaciers sont vraiment des révélateurs du climat.
Vous dites que c'est des icônes, hein, quasiment aujourd'hui, médiatiques et scientifiques. Et c'est aussi, finalement, le réchauffement climatique, une opportunité pour poursuivre plus que jamais les observations aussi en montagne.
Oui, tout à fait. Comme les glaciers sont très sensibles au réchauffement du climat pour différentes raisons. Mais heureusement, ce sont des appareils assez simples, en fait, qui réagissent au réchauffement du climat très directement par l'élévation de la fonte. C'est la fonte qui augmente. Et c'est cette fonte qui fait diminuer les glaciers, donc qui entraîne une perte de masse des glaciers. Donc évidemment, aujourd'hui, tout le monde sait, et c'est l'intérêt des glaciers, c'est qu'on a des images directes pour montrer le réchauffement climatique. Sinon, c'est souvent
abstrait,
un concept abstrait.
C'est ça.
Et là, au-delà des chiffres, on peut le montrer. Alors, il y a quand même quelques chiffres qui sont très, très révélateurs. Par exemple, au XXe siècle, dans les Alpes, les glaciers perdaient à peu près 40 cm d'épaisseur par an. 40 cm d'épaisseur par an. Et sur les deux dernières décennies, les glaciers perdent plus de 1,50 m par an, voire 2 m par an. Donc, vous voyez que l'accélération, elle est très, très forte, elle est là.
Ça vous inquiète, vous, d'ailleurs, cette vélocité-là ?
Ce qui est inquiétant, oui, c'est que ça s'accélère, le réchauffement est très marqué et il ne va pas s'arrêter. D'ailleurs, quand on étudie un peu les glaciers, quand on fait les simulations dans le futur, on s'aperçoit que les glaciers vont rapidement disparaître. Alors, dans les Alpes, ça va aller très très vite. Pour les usagers de la montagne, de la haute montagne, tout le monde le sait. Mais ça va aller très très vite. Récemment, on a fait des calculs sur quelques glaciers et on s'est aperçu que d'ici 2050, trois quarts de la surface des glaciers en France va disparaître d'ici 2050.
C'est demain matin.
Je ne parle pas de 2100.
C'est dans 25 ans.
Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Et alors, en 2100, les glaciers des Alpes auront presque tous disparu, ou il restera à peu près 10% de la surface en glacier actuelle.
Alors évidemment, tout ça, ça a des conséquences sur la vie des personnes qui vivent dans ces régions, sur l'habitabilité aussi des villages. Vous qui publiez SOS Glacier, comment prévenir les menaces? Quand vous parlez des Alpes comme un territoire, Christian Vincent, où des villages peuvent être quasiment rayés de la carte en une fraction de seconde ou en quelques mois seulement, qu'est-ce que vous cherchez à faire comprendre finalement aux lecteurs sur l'échelle là, des menaces?
Par exemple, le village de Blatten, en Suisse, donc le 28 mai, ça s'est passé le 28 mai 2025, ouais. Lui a été rayé de la carte. Ouais. Il a été
Fraction de seconde, quasiment.
Ah oui, en quelques secondes, oui. Puisque c'est un éboulement de rochers qui s'est produit sur un glacier, qui s'est déstabilisé totalement, et puis qui est venu écraser, on peut dire, le village de Blatten à 1000 mètres en dessous. Donc, effectivement, ça pose certains problèmes, peut-être d'habitabilité. Ouais. Alors, ça, c'est des questions qui ne sont pas à adresser aux scientifiques, puisque ce ne sont pas les scientifiques qui vont décider si tel endroit ou tel endroit est habitable.
Sauf que tout va partir de votre expertise, quand même.
Mais voilà. Alors, ça pose des questions à l'amont. Ouais. Hein, puisque les experts, ils sont quand même chargés de dire qu'est-ce qui va se produire ou qu'est-ce qui risque de se produire dans le futur.
Donc on sent la responsabilité là, sur les épaules.
Oui, et la question de la Bérarde, si vous voulez, elle est cruciale. C'est est-ce qu'on peut reconstruire
dans cette vallée ou pas ?
Dans cette vallée ou pas ?
Et c'est quoi la réponse aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Les experts, dont j'ai fait partie du groupe d'experts pour analyser l'événement de la Bérarde et les causes, disent que, simplement, c'est un événement de référence. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que ça pourrait se reproduire ?
Ouais. Sauf que là, il y a des vies en jeu, évidemment. Hein. Quand on voit un tel événement, il faut aussi anticiper pour se dire que, est-ce qu'effectivement, on peut continuer à vivre ici, à reconstruire, comme vous le disiez. Quand vous arrivez après la catastrophe, donc en 2024, Christian Vincent, qu'est-ce que vous cherchez d'abord à comprendre sur le glacier de Bonne-Pierre ? C'est quoi les questions que vous vous posez, au fond ?
Alors, la question posée, c'était de savoir quelle est l'origine de la catastrophe de la Bérarde. Donc, on savait évidemment qu'il y avait eu un gros événement météorologique avec beaucoup de pluie, à peu près 130 mm d'eau en 48 heures, ce qui est beaucoup, mais pas exceptionnel. Mmh. On savait aussi que le manteau neigeux avait fortement diminué, donc beaucoup de fonte, et on pouvait aussi le quantifier. Mais tout ça n'expliquait pas complètement la catastrophe de la Bérarde.
Ouais.
Et on savait que sur le glacier de Bonne-Pierre, il y avait eu un événement, et on savait qu'il y avait un lac qui s'était vidangé. Alors on le savait grâce notamment aux photos, aux images satellitaires. Et on est allé sur le glacier pour essayer d'évaluer le volume du lac qui s'était vidangé, donc un lac supraglaciaire, donc qui se forme à la surface du glacier et qui s'est vidangé brutalement. Est-ce que c'était prévisible ?
Oui.
Non, ce n'était pas prévisible, malgré ce que l'on a entendu à droite et à gauche, et notamment dans des reportages à la télévision.
Ouais. Vous racontez ça dans le livre, ces moments de tension aussi, entre les annonces médiatiques et vous, le regard de l'expert aussi sur ce qui se passe sur le terrain.
Eh bien oui, parce que il y a eu quand même, à mon avis, des paroles malheureuses qui disaient que la catastrophe de la Bérarde aurait pu être évitée, c'était les mots exacts, aurait pu être évitée si le lac de Bonne-Pierre avait été vidangé préventivement. Donc c'est quand même des mots très forts que l'on n'a pas digérés en termes,
bien sûr,
en tant que scientifique, parce que ça portait derrière une sorte d'accusation.
Oui, il y avait des soupçons très clairs, publics et médiatiques, sur ce qui s'est passé.
Alors que cette catastrophe, elle était totalement imprévisible, la vidange du lac supraglaciaire était totalement imprévisible. Pour preuve, ce lac supraglaciaire était à l'endroit même de celui de 2024, depuis 2016. C'est-à-dire que depuis 2016, il y a un lac qui se formait chaque année au même endroit et qui disparaissait au moment, en juin, juillet. Donc au moment de la fonte, ce lac se vidangeait, mais tranquillement, sans aucune conséquence à l'aval. Manque de peau, en juin 2024, il se vidange brutalement. Alors ça rappelle aussi notre méconnaissance scientifique. C'est-à-dire qu'on a là une méconnaissance sur les processus de circulation de l'eau dans le glacier. Ça nous le rappelle amèrement.
C'est fou ce que vous nous dites, hein, parce que vous êtes quand même scientifique vous-même et glaciologue. Hein, donc c'est quand même une autocritique que vous faites aussi à votre propre profession ?
Oui, c'est une propre critique, mais dans la science, il y a beaucoup de choses que l'on sait, mais il y en a encore beaucoup plus que l'on ne sait pas. Mmh. Et c'est ça qu'il faut souvent expliquer aux élus. Et quand j'explique des choses sur la vidange des lacs, eh bien, c'est des choses que je raconte. C'est-à-dire que, par exemple, un lac qui déborde sur un glacier, on ne sait jamais exactement comment ça va se passer.
Oui.
Et il y a toujours une incertitude, et cette notion d'incertitude, c'est très difficile de la faire passer avec des données scientifiques pour des gens qui n'ont pas forcément une formation scientifique. Et là, dans le cas du lac de Bonne-Pierre, eh bien oui, on ne pouvait pas prédire. On ne pouvait pas prévoir que ce lac allait se vidanger brutalement.
On va à nouveau évoquer le glacier de Tête-Rousse, sur lequel vous avez également travaillé, Christian Vincent.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Tête-Rousse, une dizaine d'hectares, en apparence une grosse plaque de neige. Mais en dessous, une poche remplie d'eau, juste au-dessus du village de Saint-Gervais.
On l'a appris officiellement aujourd'hui, ce glacier à 3500 mètres d'altitude est une nouvelle fois une bombe à retardement. Les chercheurs et ingénieurs sont formels, il y a sous le glacier une ou plusieurs cavités où de l'eau s'accumule dangereusement. En 1892, le même cas de figure avait entraîné une catastrophe. En à peine une demi-heure, une vague de 30 mètres de haut avait détruit une partie de la vallée.
Il y avait eu environ 200 morts à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui habitent dessous, il y a des gens qui viennent faire le Mont Blanc, il y a des gens qui passent dans ce secteur-là. Donc on a on doit vraiment faire quelque chose.
Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais, c'était en 2012 sur France 3, Auvergne-Rhône-Alpes. Christian Vincent, vous qui êtes notre invité glaciologue avec ce livre SOS Glacier, comprendre et prévenir les menaces. Tête-Rousse. Bah évidemment, c'est un glacier que vous connaissez très très bien. À quel moment vous revenez là-bas d'ailleurs sur place exactement ?
Tête-Rousse, pour moi, c'est l'événement le plus marquant de ma carrière.
Ouais.
Parce que j'ai donné l'alerte qui concernait la poche d'eau, à cette eau. Alors, cette histoire, si on remonte un tout petit peu dans le passé, en 2008, on a fait une étude sur le glacier de Tête-Rousse et la question posée, c'était de savoir si ce glacier pouvait poser un problème encore.
Ouais, bombe à retardement, hein, c'est le terme qu'on entendait là dans le reportage. Hein.
Oui, tout à fait. Et en 2008, on a fait une étude sur le glacier, mais on ne pensait pas du tout trouver une poche d'eau, en fait. Et on a fait des mesures radar pour déterminer les épaisseurs de glace.
Ouais.
Donc les ondes radar, ça consiste à envoyer des ondes électromagnétiques dans la glace qui se réfléchissent sur le lit rocheux et à partir du temps d'aller-retour de ces ondes, on peut déterminer l'épaisseur. Donc on obtient des images radar qui ressemblent à des échographies, quoi. Et donc on peut déterminer les épaisseurs, la topographie du lit rocheux. Et ces images radar nous ont montré qu'il y avait en fait une zone d'anomalie, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on l'a nommée, zone d'anomalie dans le glacier, c'est-à-dire qu'une zone à l'intérieur du glacier, on ne savait pas ce que c'était. Ça pouvait être de la roche ou ça pouvait être de l'eau, on suspectait. Voilà, c'est
donc
ce
ça a été inattendu quand même pour vous, ça ?
C'était totalement inattendu.
Ouais.
Et le chef du RTM, donc le RTM c'est le service de restauration des terrains en montagne qui dépend de l'ONF, et le chef du RTM de Haute-Savoie qui m'avait commandé l'étude m'a dit bah, il faut aller expliquer ça au conseil municipal.
Il vous demande s'il y a un risque.
Il me demande s'il y a un risque, mais surtout il me dit il faut aller présenter ses résultats puisque la recommandation c'était de faire des forages. Donc, destructif pour savoir s'il y avait de l'eau dans ce glacier. Oui. C'est le seul moyen fiable, si vous voulez, d'avoir la preuve qu'il y a de l'eau. Donc, je suis allé, je raconte cette petite histoire parce que ça nous enseigne, ça nous donne des leçons pour l'avenir.
Oui.
Je vais au conseil municipal, à la commission, donc il y avait monsieur le maire, etc. Et j'explique cette histoire et je dis, je recommande de faire des forages. Cette recommandation n'a pas été suivie d'effet. parce qu'il y avait d'autres soucis, et puis peut-être c'était aussi par souci d'économie de l'argent du contribuable.
C'est houleux, hein, la réunion donc, que vous décrivez. Hein.
Ça a été une réunion très houleuse, comme on a eu l'habitude de réunions houleuses à Saint-Gervais.
Mais donc c'est quoi? C'est la politique qui prend le pas sur la science, là, très clairement?
Alors, je ne sais pas, c'est pas la politique, ou peut-être par souci d'économie, je ne sais pas. Toujours est-il que ces actions, ces opérations de forage ne sont pas menées.
Ouais.
Et on se retrouve un an après, en 2009, avec toujours la même histoire, toujours la même question, est-ce qu'il y a de l'eau dans ce glacier-là? Et à ce moment-là, donc, j'ai la chance de croiser des collègues hydrologues qui... en fait, font des opérations, des prospections géophysiques, qui cherchent de l'eau dans les sous-sols, et ils veulent tester leur technique sur un glacier.
Donc, par résonance magnétique des protons, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
C'est la technique qu'ils veulent utiliser.
Oui.
Donc c'est un hasard total pour vous, mais c'est la solution aussi, peut-être,
à vos problèmes. C'est un concours de circonstances très heureux, parce que c'est ça qu'on a mis en place sur Tête Rousse, parce que je leur ai dit, voilà, il faut tester cette technique sur le glacier de Tête Rousse, puisque c'est là où je voudrais savoir s'il y a de l'eau ou pas. Donc là, on était en 2009, et en été 2009, ils utilisent leur technique, et à l'automne 2009, ils me disent, Christian, nous, on est sûr qu'il y a de l'eau. Comme la technique, elle était très nouvelle, moi-même, j'avais des soupçons, et finalement, ils refont leurs calculs, ils confirment, et donc là, j'envoie un message au préfet pour dire qu'il faut absolument faire des forages, ce que l'on fait en juillet 2010.
Ouais.
Et en juillet 2010, on termine, le 8 juillet exactement, on termine les forages. Et quand on avait fait une vingtaine de forages, et dans plusieurs de ces forages, non seulement on trouve de l'eau, mais de l'eau sous pression, parce que ça faisait des petits geysers quand on perçait la voûte glaciaire.
Il y a beaucoup d'eau.
Il y a beaucoup d'eau, il y a à peu près 60 000 mètres cubes d'eau. Et à ce moment-là, j'envoie un rapport très rapidement. Au bout de 2 jours, j'envoie un rapport au préfet pour lui dire que là, il y a une menace glaciaire.
Attention, ouais, il y a urgence.
Et il faut vidanger cette poche d'eau artificiellement, ce qui a été fait très rapidement. Après, on est rentré dans une situation de crise. Donc très rapidement, j'ai été convoqué 24 heures après à la préfecture. Et tout s'est décidé très rapidement. Ce qu'il faut ajouter dans cette histoire, c'est qu'en France, on a la chance, et on ne s'en rend pas compte, on a la chance d'avoir des services d'État qui marchent très 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 bien et qui réagissent très très vite quand il y a ce genre de problème. Et tout de suite, le problème a été pris en main, en charge, et des travaux d'urgence ont été menés en août.
Sauf qu'on imagine que si vos collègues n'étaient pas arrivés justement avec leur technique de résonance magnétique des protons, là, qu'est-ce qui se serait passé finalement?
Personne ne le sait. On avait 60 000 mètres cubes d'eau dans ce glacier, sous pression.
Sous pression, c'est ce que vous dites,
Donc j'avais écrit dans mon rapport qu'il fallait agir très très rapidement, c'est ce qui a été fait. On avait calculé qu'avec le même volume de la poche d'eau de 1892, donc à peu près 80 000 mètres cubes, donc vous voyez en 1892 il y avait un volume assez similaire, avec 80 000 mètres cubes d'eau qui étaient largués dans la vallée, et ça aurait fait à peu près 3 000 morts à Saint-Gervais. Donc vous voyez que l'enjeu il était grand quand même.
Christian Vincent, on va écouter l'extrait d'un reportage de TF1 en 2023 autour des obsèques d'un glacier en Isère, celui de Sarennes.
Il n'y a pas de possibilité d'adaptation pour un glacier. Un glacier, c'est de la physique pure. C'est que dès qu'on passe au-dessus de 0 degré, ce glacier, il fond.
Le fameux isotherme 0 degré est d'ailleurs remonté à une altitude record il y a 2 semaines. 5300 mètres dans les Alpes, 500 mètres au-dessus du Mont Blanc. Au-dessous, tout fond. La glace qui tient les pierres, aussi.
Ça y est, tout est parti là.
Les éboulements se multiplient. Et il y a 5 jours, des glaciologues ont annoncé la mort du glacier de Sarennes en Isère. Des obsèques symboliques pour lancer l'alerte. Car les glaciers sont les châteaux d'eau de nos plaines agricoles.
Christian Vincent, des obsèques d'un glacier, est-ce que c'est utile selon vous pour marquer les esprits ?
Je ne suis pas très fanat des obsèques des glaciers, parce que oui, effectivement, ça marque les esprits, ça permet de faire de la communication. En revanche, il faut bien voir qu'il y a des petits glaciers, notamment dans nos massifs autour de Grenoble, donc les Grandes Rousses, c'est le cas là, ou dans Belle Donne, des petits glaciers qui sont de toute façon condamnés à disparaître, parce qu'ils ont été formés au petit âge de glace quand il faisait un peu plus froid, et qu'avec les conditions du XXe siècle, même, ils n'auraient pas pu résister. Alors, effectivement, avec les conditions climatiques actuelles, ça accélère leur disparition. Ça, c'est tout à fait pertinent.
C'est quoi les menaces aujourd'hui sérieuses sur les Alpes, par exemple, sur les glaciers alpins ?
Alors aujourd'hui, eh bien, il y a plusieurs sites qui sont observés, que mes collègues observent, hein, puisque moi je suis plus en activité depuis peu. Et ces sites-là, bah, c'est toujours Tête Rousse, parce qu'on sait qu'il y a de l'eau encore dans le glacier de Tête Rousse. Donc depuis 2010, vous voyez qu'il y a une surveillance très intense en fait sur le glacier de Tête Rousse. Il y a d'autres lacs visibles, eux, qui sont surveillés, notamment le lac de Tignes. Donc, sur le glacier de la Grande Motte, il y a un lac qui s'est formé il y a quelques années. Là aussi, on a été obligé d'intervenir pour vidanger préventivement, mais cette vidange, elle n'est pas totale, elle est partielle. C'est un lac périglaciaire, donc qui s'est formé en bordure du glacier. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution pour le vidanger complètement, ce lac. Donc, il est vidangé partiellement, et dans les années à venir, j'espère qu'on va trouver des solutions. Et puis, bien sûr, il y a d'autres lacs qui vont se former. Il y a plein de lacs qui se forment, en fait, sur les glaciers ou en bordure des glaciers, suite au recul des glaciers. Et ça, ça va se multiplier parce que les glaciers reculent beaucoup. Et là, il va falloir être très vigilant. Et c'est une difficulté majeure pour nous, scientifiques, c'est de détecter les lacs qui sont dangereux. Heureusement, la plupart ne sont pas dangereux. Mais la difficulté, c'est d'identifier ceux qui sont dangereux. Et pour identifier ceux qui sont dangereux, il faut faire souvent des prospections géophysiques. Donc, mener des instrumentations, faire des mesures sur ces lacs et ces glaciers.
Voilà, avec toute l'impossibilité de mener une surveillance totale aussi, hein, ce serait extrêmement compliqué. Donc, vous expliquez bien qu'il faut aussi accepter une part de risque également dans les vallées, ce qui est évidemment très très compliqué pour ces personnes qui sont donc dans ces régions. Merci beaucoup Christian Vincent d'être venu au micro de la Terre au Carré. Je renvoie sur votre ouvrage, ça s'appelle SOS Glacier, comprendre et prévenir les menaces. C'était l'objet de cette discussion avec ce livre publié aux éditions Guérin Paulsen. Merci beaucoup à vous.
Merci Mathieu.
D'être venu à ce micro. Merci à Lucille Jourde-Moalic qui a préparé ce dossier et que nous saluons puisqu'elle est maintenant à Chamonix. Merci Lucille d'avoir préparé ce dossier. Titouan Labarre qui était à la technique et Florian Dittre à la vidéo. Amazir Amadein Guest a réalisé cette émission.